Le corps spirituel, c'est pas l'âme, hein.
Bon, une fois qu'on a fait ça.
Bon, une fois qu'on a fait ça. Ben, ton âme, elle est pas évaporée, ton âme. Hein. Elle est bien dans ton corps. Hein? D'accord. Tu t'aperçois que l'aspect spirituel de ton âme ne vivifie pas, par exemple, ton intelligence et tes pensées, puisque tes pensées sont noires, cafardeuses. Tu vois bien que c'est pas ton âme qui le vivifie. C'est la partie psychique de l'âme qui vivifie ce qui est cafardeuse. C'est la partie animale, si tu préfères, de l'âme. Qui vivifie tout ce qu'on pense. Ah, je suis cafardeuse, j'y arriverai jamais, j'ai peur, je suis angoissé, je suis nul, hein, ou alors je suis très bien. Etc. Tout ça, c'est des trucs qui viennent de la partie psychique de l'âme, la partie psychologique de l'âme, la partie animale de l'âme, ou quelquefois la partie instinctive de l'âme, végétative, comme dit Aristote de l'âme. Okay? Mais quand c'est la partie spirituelle, c'est forcément pur, doux, immaculé, amoureux, libre, hein, et vaste, vaste comme l'immensité du monde. Puisque ton âme a été créée par Dieu de manière vivifiante. Donc elle a forcément, dans la partie spirituelle de l'âme, t'as un élargissement aux dimensions même de la présence d'immensité de Dieu. Pas aux dimensions de Dieu, mais de la présence d'immensité de Dieu dans la création. C'est pour ça que les gens qui s'arrêtent à la spiritualité de l'âme, qui touchent la spiritualité de l'âme sans Dieu, ben pour eux le divin c'est la présence d'immensité du tout de la création. Et ils n'arrivent pas à rentrer à l'intérieur de Dieu. Mm-hmm. Pour eux Dieu et le tout c'est pareil. C'est ça le panthéisme. C'est pour ça que ça ne suffit pas du tout de saisir la spiritualité de son âme. Il faut aussi toucher Dieu. À l'intime de lui-même. Il faut rentrer à l'intérieur de Dieu, quelque chose qui dépasse complètement, si tu veux, les dimensions tout à fait étonnantes, d'ailleurs, de la présence d'immensité de Dieu, mais il faut dépasser ça, puisqu'il faut rentrer en Dieu lui-même, qui est infiniment, mais pas infiniment, beaucoup plus qu'infiniment, plus que sa présence d'immensité, d'amour et de gloire dans notre monde, dans notre univers, même sur le plan de la grâce. Ah. Alors, faut pas s'arrêter à la spiritualité de l'âme. Hein? Alors, c'est pour ça qu'il faut saisir son corps. C'est l'expression saisir son corps spirituel. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on parle de corps d'origine, corps terrestre, et puis corps spirituel? Donc, c'est toujours le même corps, c'est ton corps. Mais il va avoir trois états différents. Bon, l'état dans lequel tu es en ton corps à l'origine, c'est-à-dire dans la première cellule, c'est un état qui le met exactement au même diapason que l'âme spirituelle, exactement. C'était seulement le premier instant. Mais on a commencé comme ça. Et là, c'était aux dimensions de l'élargissement, une âme totalement élargie, très vaste. Vaste comme le monde créé. Vaste comme la présence de Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'on a un lien à l'unité de la vitalisation du corps. Dès qu'on a un corps vivant, un être de vie, et dès qu'on prend conscience de ce que c'est que notre être de vie du point de vue de la substance vitale, et corporelle et incarnée, on est forcément, on ne peut pas ne pas sentir qu'on est en lien avec la vastitude de la présence de Dieu, créatrice dans le monde entier. Il y a un lien entre tous les corps et mon corps, ça c'est sûr. Ça, c'est le corps originel. Le corps actuel, bah, c'est qu'on est enfermé dans une espèce de conséquence du péché, avec des séquelles, avec un corps qui est opaque, et l'animation donc, spirituelle de l'âme rebondit dessus et fait que je ressens plein de trucs qui ne sont pas spirituels. Donc la peur, l'angoisse, la tristesse, l'oppression, etc. Tous les trucs psychiques, tous les trucs psychiques. La castration, les sentiments, les impressions, le romantisme, tout ça. Les nostalgies, l'insatisfaction, l'insécurité, l'aliénation, etc. Alors du coup, il faut quand même que... Et c'est ça que Jésus est venu dans notre terre. dans notre terre blessée, donc dans notre corps blessé, et là c'est la blessure de son corps qui pénètre en nous. Et donc quand, dans notre corps terrestre, c'est-à-dire aujourd'hui on vit des sacrements, alors à l'intérieur de l'âme, descend dans la partie spirituelle, justement qu'on n'a pas l'habitude de vivre, on n'est pas totalement spiritualisé actuellement. Alors, eh bien il met la grâce, hein, il met sa présence. Donc tout le travail de la foi, au fond, finalement, à bien regarder, ben, c'est de dire, mais pourquoi se tourmenter puisque Dieu est là? Puisqu'il y a la grâce dans le fondement là, il y a le fruit de tous les sacrements, donc il y a la présence réelle, pas par mode sacramentel, mais par mode de grâce, par mode donc de vie. Dans les sacrements, Jésus est présent, par exemple dans l'hostie, il est présent per modum substantié, par mode d'être, par mode de substance. Il existe, c'est la substance du corps du Christ qui est là. Et quand la substance du corps du Christ, parce que la digestion le fait disparaître, il laisse place à une présence vivante. C'est la grâce eucharistique. Et la grâce, c'est le feu. Et la grâce eucharistique, c'est le feu qui brûle corporellement le cœur de Jésus qui est là. Et il est complètement enveloppé par la grâce, par une grâce d'affinité qu'on appelle l'Immaculée Conception. C'est pour ça que dès que tu as vécu de quelconque sacrement, tu sais qu'au fond de ton âme, il y a le fruit de tous les sacrements qui est là. Donc l'Immaculée est là. Et l'Immaculée est là au centre, et du coup tu te plonges en elle. Et tu lui dis, allez, très sainte Vierge, c'est vous qui comptez, moi, toutes mes conneries, mon fils. Toutes mes bêtises, mon fils. Je laisse tomber tout ça, cette vieille peau, mon fils, tout ça. Et je ne prends que la réalité. Alors, ça peut être utile de prendre conscience de son corps originel pour trouver le corps spirituel tandis qu'on est dans le corps terrestre. Pourquoi? Parce que dans notre corps d'origine, dans cette première cellule, cette cellule vient d'où? Du point de vue du corps, il vient de la conjonction donc du patrimoine, de la moitié du patrimoine de mon père, la moitié du patrimoine de ma mère, génétiquement, biologiquement parlant. D'accord? Et le tout est emporté par l'unité sponsale des deux. Donc je viens d'une unité sponsale. Il y a le père, l'époux, l'épouse, les deux se conjoignent dans l'unité des deux, et de l'unité des deux émane quelque chose qu'on appelle l'unité sponsale. Et l'unité sponsale est véhiculée par la tension entre le reste du corps de l'homme dans le corps de la femme, les deux gamètes. Les deux gamètes se conjoignant, portés par le poids ontologique de l'unité sponsale. Tu vois bien que le poids ontologique de l'unité sponsale est distinct de l'unité de l'homme et de la femme. Puisqu'il peut très bien ne plus y avoir l'unité de l'homme et de la femme, tandis qu'il y a encore l'unité sponsale, portée donc par la tension intergamétique, si je puis dire, hein. C'est pas intergalactique, mais c'est intergamétique, on va inventer un nouveau langage super, et tu viens de là. C'est de l'unité sponsale dans son point ontologique qu'éclate l'acte créateur de Dieu, la création de l'âme spirituelle, dans la constitution d'une nouvelle cellule, et le tout dans une brûlure, une lumière, qui est aux dimensions donc de l'éternité vivante du Créateur. De sorte que nous commençons avec une conscience d'éternité, d'amour, de lumière et de vie, dès le départ, ça va, et ceci à partir d'une fécondation, laquelle s'engendre à partir d'un point ontologique de l'unité sponsale d'amour de l'homme et de la femme en présence du Créateur. C'est pour ça qu'on appelle ça procréation. Ça va? Ça, c'est notre corps d'origine. C'est notre innocence divine, c'est ça. Donc, je vous ai lu le passage de Sainte Thérèse d'Avila, quand même, qui décrit la chose sous forme descriptive. Donc, c'est quand même bien, on peut s'imaginer comme ça. Prendre conscience que toutes nos cellules portent ça dans leur centre. Dans leur centre lumineux. Le centre lumineux de chacune de nos cellules, c'est le lieu où l'âme spirituelle rejoint notre corps pour réaliser l'unité substantielle. L'unité de substantielle de vie. Ça va? Bon. Mais c'est utile de reprendre conscience de ça parce que, un, tu reprends pied dans les mains du Créateur. Deux, tu reprends pied dans ton identité vivante, non perturbée. Entrée. Trois, tu t'acclimates à la découverte de ton corps spirituel, puisque le corps spirituel vient aussi d'une unité sponsale, mais différente. Notre origine, elle est bien, elle vient de la procréation, mais notre origine dans les cieux, elle vient du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. C'est ce que je vous ai lu dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. C'est le nouvel Adam, la nouvelle Ève, donc traduit le Jésus brûlé dans son corps par la gloire de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint attire la nouvelle Ève qui est dans une grâce d'affinité et corporellement se réalise donc l'unité sponsale glorieuse. Il réalise une seule chair glorieuse dans l'éternité de gloire. Au cœur même des processions, des deux processions de la très sainte Trinité. Il y a l'homme et la femme, le nouvel Adam et la nouvelle Ève, qui sont en dehors de notre temps, en dehors du contexte spatio-temporel. Ça va ? Et qui sont pourtant à l'intérieur et au cœur même et au centre de ce monde spatio-temporel. Dis-moi, c'est à nous de les faire habiter au centre même de notre monde spatio-temporel. Ça va ? Et justement, c'est ce que je vous disais peut-être, ce que je vous disais tout à l'heure, à la messe, c'est que nous, c'est un petit peu peut-être notre liberté spirituelle chrétienne consiste précisément à prendre notre origine sur la terre, à l'enraciner dans l'origine éternelle, dans notre origine éternelle incarnée. Parce que l'homme, le nouvel Adam et la nouvelle Ève se conjoignent dans une unité sponsale de gloire. Et si la grâce m'en est faite, si l'Esprit Saint le veut bien, si l'Esprit Saint m'emporte, alors à ce moment-là, je rentre dans l'unité sponsale de Jésus et de Marie qui est dans la gloire et une nouvelle cellule apparaît. Je suis fécondé à nouveau dans un corps qui est glorieux puisqu'il est fécondé par deux corps glorieux en une seule chair glorieuse. C'est clair. Et il y a quelque chose de mon corps glorieux que je commence à saisir. De même que j'essaye de reprendre l'odeur de mon corps originel, c'est facile à faire, il suffit de se mettre dans les mains du Créateur, dans la plus toute petitesse que je n'ai jamais expérimenté de ma vie, c'est-à-dire au premier instant. À force de m'acclimater à ça, ben c'est normal que je m'acclimate analogiquement à la toute petitesse qu'il y a quand je suis fécondé dans mon humanité nouvelle, par la fusion de gloire de l'homme et de la femme, nouvel Adam, la nouvelle Ève, père et mère de toute l'humanité. Nous avons un corps qui vient d'Adam, nous avons un corps qui vient du nouvel Adam. Le premier est un corps psychique, le second est un corps spirituel. C'est dit clairement. Et c'est pour ça que tu saisis ton âme, donc tu te saisis tout entier, c'est ça, voilà. Tu adores, tu es en présence de Dieu. Tu es tout petit, c'est Dieu qui te recrée. Et du coup, tu vis de la grâce et tu dis, Saint-Esprit, prenez-moi, emportez-moi dans la plénitude de grâce, de l'amour fulgurant, de la gloire qui brûle le feu de Jésus et qui s'empare du corps de la femme dans une unité sponsale incroyable. Et je suis à nouveau fécondé. Ah, je me trouve face à mon corps spirituel. C'est extraordinaire. C'est une manière de parler, si tu veux. Remarque, j'ai bien aimé, effectivement, ce que vous m'avez fait découvrir à la messe, c'est que du coup, effectivement, il y a un instant éternel pour la fécondation de l'humanité nouvelle, donc il n'y a qu'une seule cellule, il n'y a qu'un seul génome au niveau de la gloire. Ça, c'est sûr, c'est probable. On est tous des jumeaux, c'est moi aussi. Mais vous savez, ça ne veut pas dire qu'on est exactement les mêmes dans la gloire, puisque vous verrez, mon frère jumeau, Mozicote, il me ressemble, si tu veux, mais très différent aussi, quoi. Identique. Oui, on m'a dit, oui, sur le chemin hier, on me disait à Cafarni, on me disait, mais oui, on peut pas, moi je peux pas arriver à le voir, ce corps spirituel. Mais il ne s'agit pas de voir le corps spirituel. Hein. Il ne s'agit absolument pas de voir le corps spirituel. Il s'agit de vivre de la résurrection. je suis pris par la grâce, je rejoins le fruit de la grâce qui est en moi, et la reste de tous les sacrements, c'est que la reste des sacrements, nous l'avons vu pendant toute une année, hein, c'est que le fruit des sacrements, c'est qu'elle me met en présence vivante de la fin. C'est-à-dire de la grâce finale. C'est ça, le fruit de tous les sacrements. Une fois que le sacrement disparaît, et que je plonge dans... C'est la réalité vivante de la présence vivante de Marie, de Jésus, à la fin du monde. À l'instant, c'est le passage, je touche le passage où l'ensemble de la création, moi-même, etc., sont entièrement récapitulés dans la gloire de l'éternité. C'est la fin, quoi. On n'y assiste pas, nous, mais on y assiste dans la reste et le fruit des sacrements. Ça, oui, on y assiste complètement. On touche la fin dans le fruit des sacrements. Alors, c'est pour ça que là, c'est notre rôle, précisément, de le vivre, puisque c'est là, en nous. Donc, on le vit, on se plonge dans la grâce sanctifiante qui est en nous, fruit des sacrements, c'est-à-dire le règne du Sacré-Cœur, si tu veux. Le règne du Sacré-Cœur, il règne sur qui ? Il règne sur l'Assomption de la Vierge. Il a assumé tout le corps de la Vierge. Et du coup, dans leur unité sponsale, l'humanité intégrale a exercé une attraction prodigieuse sur tout le cosmos, à condition que le corps mystique de Jésus vive ça avec eux. Le corps mystique, c'est nous, les membres. Donc nous, on vit ce qu'ils vivent dans la... Alors tu me diras, moi j'arrive pas à vivre ce qu'ils vivent dans la résurrection, puisque je suis pas ressuscité. Mais justement, c'est par la... c'est ça la foi. Ça, l'espérance. Alors on me disait, oui, moi je peux pas faire ça puisque je suis pas encore au ciel. Ben, je dis d'accord, mais quand tu fais un acte d'espérance, tu dis, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde et la béatitude et la plénitude du bonheur de l'éternité de l'autre monde. Maintenant, Je reçois toute la béatitude éternelle. Là maintenant, j'en vis maintenant. C'est ça l'espérance. C'est pas j'espère qu'un jour j'y arriverai, quoi. Ça veut dire j'espère pas, finalement. C'est maintenant qu'on espère. Un acte d'espérance est actuel. C'est pas une projection. Si c'est une projection, c'est psychologique. Alors c'est inférieur à un acte humain, si c'est psychologique. Si tu dis, ah, j'espère qu'un jour j'irai au ciel, c'est psychologique. Voilà, c'est pas d'espérance. C'est psychologique. Le bouddhiste fait mieux que toi. Le musulman fait mieux que toi. Tandis que si tu dis, j'espère, en ce moment j'espère, j'ai une confiance totale qu'en ce moment tu me donnes toutes les grâces qui sont sorties de tes mains depuis le début jusqu'à la fin du monde et que tu me donnes aussi toutes les gloires dont je jouis déjà éternellement dans la vision béatifique et l'état dans lequel je suis dans l'éternité, parce que l'éternité, elle est déjà là. Vous savez la différence entre le temps et l'éternité quand même, puisque le temps c'est une succession de choses. Et l'éternité c'est un seul instant qui absorbe, récapitule tous les temps. Donc en ce moment il y a l'éternité. Donc l'état de sainteté dans lequel je suis à la fin. Oui, qu'est-ce qui me pose la question hier, je ne sais plus. Quand je serai au ciel, est-ce que... Enfin, oui, exactement la même question que comment s'appelle cette femme qui avait eu sept maris, etc. Quand, est-ce que je retrouvais mon mari au ciel? J'ai dit, voilà, ainsi et là. Il m'est venu une réponse toute simple. Qui m'est venu à la tête, je vais la répéter parce qu'effectivement, elle me plaît, mais je ne sais pas si c'est juste, mais enfin... Elle me plaît. Et j'ai pensé à Saint François d'Assise. Quand je suis en contact avec Saint François d'Assise, j'y brûle dans séraphiquement, dans, actuellement au ciel, vous comprenez? Mais sa petite copine, tu comprends? Sa petite copine, quand il avait 18 ans, parce qu'il était assez amusant, c'est pas? Bon, sa petite copine, quand elle retrouve au ciel, elle retrouve pas le François d'Assise qu'elle a connu, qui lui faisait une petite caresse dans la patience, la bonté et l'amour, la foi et la joie, dans ce moment-là, avec toutes les sensations vibratoires correspondantes. Ça. Non, c'est pas ça. Cette petite, elle le voit au ciel comme Saint François d'Assise, comme toi. Moi, je vois ça, François VI, séraphique. C'est plus du tout François VI. Tu comprends, hein? Tu vois la différence quand même, j'espère. C'est plus du tout le Saint-François d'Assise qui est un petit peu marrant, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est plus marrant du tout. Il est encore plus marrant, mais... beaucoup plus marrant même qu'avant, mais beaucoup plus gai, tout ça, beaucoup plus rigolo. Mais c'est plus du tout le même. Bah, heureusement, tu vois, heureusement. Heureusement. Ouais. Donc oui, mais eh ben Saint François d'Assise, qu'est-ce que c'est qu'un saint? Les saints, c'est quoi? C'est les chrétiens, quoi. Ouais. Bon, c'est-à-dire, c'est quoi les chrétiens? Mais c'est les chrétiens, c'est ceux qui, je crois, c'est ceux qui ont découvert, bon Dieu leur a montré, qu'ils étaient au ciel, que c'était des saints. Bon Dieu leur a montré l'état dans lequel ils sont à la fin. C'est ça. Et du coup, ils le deviennent déjà sur la terre, et puis c'est tout. C'est l'enfance de l'art, hein?
La Sainte Vierge le dit, je vous veux tous saints.
Ben, on est des saints, puisqu'on est inscrit sur le livre de vie, dans l'état d'éternité glorieuse, qui sera le nôtre, et qui a été probablement quelque chose qui correspond à, je ne sais pas, qui a été mis en germe dans notre premier instant de liberté dans le corps originel, probablement. Et bon, donc il faut savoir que au ciel, éternellement, on est dans la gloire de la résurrection pour l'éternité, on en est sûr. On en est absolument sûr. C'est ça les chrétiens. C'est quelqu'un qui dit, oh non, non, moi peut-être que j'irai pas au ciel, il fait un péché mortel, matière grave, contre l'espérance. Oh, peut-être que j'irai pas au ciel, etc., matière grave. L'espérance, je suis tenu, c'est un impératif divin, je suis tenu de savoir, avec une confiance éperdue, que bon Dieu me donne cette grâce en ce monde, et la sainteté dans l'autre. Ah, je peux refuser absolument. Alors bon, alors je fais une faute, matière grave, ça. C'est un commandement, hein, d'espérer, d'être sûr qu'on va au ciel. Une certitude, une confiance éperdue. C'est un commandement absolu. Et du coup, je supplie l'Esprit Saint de me montrer que comment je serai au ciel. La Vierge Marie, il n'en a pas été autrement, j'en suis certain. Pour la Sainte Vierge, c'est vrai. À chaque occasion qui lui a été donnée, bon, par exemple, ne serait-ce que l'annonciation dans le Fiat, c'est quelque chose, même à Noël, je ne sais pas, elle s'est trouvée au ciel, elle a bien vu que, sinon son oui, bon, elle a bien vu qu'elle était la Vierge, l'Immaculée, la Corrédemptrice, la Reine de tout l'univers, etc. Et du coup, sur la Terre, elle a vécu en tant que telle. Sinon, elle n'aurait jamais dit Magnificat. Hein. Toutes les générations me disent, les puissants, les démons sont tous écrasés quand j'arrive. Tout. Jamais elle aurait dit ça dans le Magnificat. Hein. Elle le voyait bien. Donc, il faut donc anticiper, quant à notre manière de parler, notre entrée dans la vision béatifique. Ça, c'est ce que disent tous les docteurs de l'Église et les apôtres. On anticipe notre entrée dans la vision béatifique. Ça, c'est l'acte de foi. On vit de ce trésor de gloire qui est la sainteté qui nous est fabriquée par Dieu lui-même, en fonction de notre liberté d'ailleurs et de nos actes. Ça c'est l'espérance. Et on brûle dans l'amour. Ça c'est la charité. Sinon, c'est des actes de foi, d'espérance, d'amour qui sont des actes terrestres, hein, du monde ancien, périmé, vétuste, stérile. Moi je crois en Jésus, mais tu crois à rien du tout. Et il faut découvrir, justement, savoir que, puisque le bon Dieu m'a créé dans la première cellule, que je constate que c'est fait, ça. Dans l'acte créateur de Dieu, il n'y a qu'un seul acte créateur de Dieu. Il n'a pas fait plusieurs actes créateurs. Il n'en fait qu'un. Donc, je constate que j'existe. Dans l'acte créateur de Dieu, il y a nécessairement mon corps spirituel qui... mon état de sainteté qui est dans l'éternité du glorieux. Ça, c'est difficile pour moi de comprendre avec mon mental, j'allais dire, anthropoïde, n'est-ce pas? Anthropos, ça veut dire humain, hein, anthropoïde. Mon mental humain. Mais n'empêche que c'est sûr que là, créateur de Dieu, il m'a crié, il n'y en a qu'un seul. Donc quelque part, je peux retrouver, avec la conscience de mon corps d'origine, donc la pureté de mon âme spirituelle, en présence de la vivante acte créateur de Dieu, et si en plus je vis de la grâce, alors là, je peux savoir, en tout cas, je sais que je suis un saint pour l'éternité. Je le sais. Et je le sais dans le Christ, et je le sais dans le cœur sacré de Jésus qui brûle le cœur de la Vierge dans une unité sponsale de l'homme et de la femme parfait, et qui, eux, recréent le monde nouveau dans mon corps originel. Et à ce moment-là, je sais, vous voyez bien, et c'est ça qu'il faut que je retrouve. Il faut que je m'offre dans cette fécondation de gloire de l'homme et de la femme, remplie de gloire, dans une seule chair glorieuse, Jésus et Marie, et qui féconde éternellement la gloire de ma résurrection. Il faut que je retrouve cette fécondation et cet épanouissement, cette fécondation glorieuse de mon corps spirituel. Parce que ça ne veut pas dire qu'en ce moment tu es là, puis tu es aussi au ciel, glorieuse, remplie de... Que vous êtes, tu vois, c'est spirituel, cette affaire-là, c'est spirituellement que le monde nouveau serait ce travail spirituellement. Une fois que tu as découvert, ah ben oui, que tu étais un saint pour l'éternité, eh ben tu t'habitues, tu t'harmonises avec l'état dans lequel tu es pour l'éternité. Alors, bon, maintenant, moi je te dis la chose, disons, comment est-ce qu'on fait la pratique, toute simple, toute normale, enfin, qu'on connaît bien parce que ça c'est la vie chrétienne qu'on apprend au catéche pour les petits enfants. On dit ben voilà, tu anticipes ton entrée, c'est ça. Moi on m'a appris comme ça. Ben tu anticipes ton entrée dans la vision béatifique. Tu sais que ça y est, je suis au ciel. Tu anticipes. La foi te donne ce pouvoir de faire un acte où tu ça y est, tu es dans l'état dans lequel tu seras éternellement comme un grand saint, un saint immense, unique. Le premier à vivre de la générosité de Christ. Le premier du monde nouveau. Parce que dès qu'on anticipe notre vision béatifique, on est nécessairement le premier du monde nouveau.
Mais c'est de l'orgueil que de vouloir être le...
C'est de l'orgueil de refuser la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui veut ça, et refuser la sagesse de Dieu, c'est ça l'orgueil. Et s'il veut qu'on soit le premier, s'il veut nous aimer quand il aime, tu es le premier. Si tu es le deuxième, c'est qu'on ne peut pas dire que ton amour soit substantiel. C'est mystérieux, mais c'est vrai. En tout cas, c'est vrai. Peut-être mystérieux, mais c'est vrai. Bon, j'anticipe, c'est facile, regardez. Je vois que j'ai ici, ah, je suis suspendu à créateur de Dieu, allez, je me mords complètement à Dieu, et puis voilà, je brûle dans l'éternité glorieuse, et voilà, je suis un saint. Et je vous rappelle que c'est une des cinq conditions pour recevoir une indulgence plénière, ça. Vous savez, les gens ils disent, oh, 100 jours d'indulgence, indulgence plénière, alors ils font des prières, etc. Et ils ne savent même pas anticiper, alors que c'est une des cinq conditions pour recevoir l'indulgence plénière. Donc c'est pour vous dire, c'est courant, hein, dans la pratique catholique de savoir ça. Faites dans la journée un acte d'anticipation où vous êtes un saint totalement et pour l'éternité, et vous plongez dans cet état dans lequel vous êtes dans l'éternité glorieuse. Comme saint François d'Assise, quand il mettait tout son cœur, toute son âme, toutes ses forces, tout son esprit, toutes ses... Comme dit Moïse dans le Deutéronome, hein, tu aimeras ton cœur de tout ton corps, toute ton âme, toutes tes forces, tout ton amour, tout ton esprit, et tout. Tu vis ce que l'état dans lequel tu es dans la cause finale. Ça, c'est facile de faire ça pendant, disons, 3-4 secondes. Allez. Bon, ce qui est dur, c'est que ça fasse pendant tout le temps, nuit et jour. Enfin, mais 3-4 secondes, c'est l'enfance de l'art. Voilà. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu dis, oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, allez. Allez, vous venez et au nom du Père, du Fils, et puis vous faites. Ah, ça y est, tu as ça. Voilà, c'est fait. C'est génial. Il faut anticiper notre état de sainteté. Il ne faut pas faire oh, Saint-Esprit, j'en supplie, aide-moi. Non. Bon, le signe de croix, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas si vous pouvez. Je trouve ça super. Il faut donner Saint-Esprit. Et puis alors, il nous aide. Bon, c'est ça. On est tous ressuscités avec le Christ. La première fois que j'avais été voir le Saint, que nous avions été voir le Saint-Père, un mardi saint avec des petits frères de Saint-Jean, il nous avait donné à chacun une petite image qu'il avait écrite derrière, cette fameuse phrase de Saint-Paul, « Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ. » Puisque nous sommes ressuscités avec le Christ, alors recherchons les choses d'en haut, savourons quae sursum sunt sapite, toutes ces réalités qui sont au ciel, et notamment l'attente donc qui est fabriquée par Dieu dans le cœur brûlant du Christ qui féconde l'Immaculée Conception, la femme, l'épouse, pour réaliser justement la vie éternelle dans le monde humain. Tu vois, il faut rechercher l'état de notre sainteté incarnée. C'est pour ça qu'on dit corps spirituel, c'est pour dire que c'est pas une sainteté. La sainteté d'un corps raréfié, comme dit saint Thomas d'Aquin. Non, d'un corps glorifié. Voilà. On m'a dit oui. Alors, une fois que tu es là, une fois que tu vis là, planté dans la vraie réalité, je suis la vérité, je suis la résurrection. Je suis le chemin, la vérité, la vie, mais du coup, je suis la résurrection, je suis la porte du ciel, je suis Fils de Dieu. Lorsque ton je suis est dans le je suis de Christ, ça y est, ton identité est retrouvée. Et tu peux dire tous les je suis que le Christ proclame. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis la lumière du monde. Et comme je suis la lumière du monde, vous comprenez bien que du coup, le Toto qui veut être la lumière du monde, tu fais quoi ? Je remplace les mecs. C'est ce que disait le Saint-Père aux jeunes chez Stokova. Cher jeune, les papes vous aiment. Et ils vous conseillent une chose, des prières et d'espérance. Et pour commencer, il faut mettre votre je suis dans les je suis de Dieu. Celui qui ne fait pas ça, et il disait, en l'an 2000, il sera plus chrétien, il sera même plus homme. Et tu sais, ça vous rappelez, c'était en 91. Et là, maintenant, je suis dans je suis du Christ, à ce moment-là, notre identité est réelle, d'éternité, notre nom, notre véritable nom. Et du coup, le monde angélique peut enfin avoir sa fonction pour le royaume de Dieu. Le monde angélique peut enfin avoir sa fonction pour le royaume. Il peut enfin se mettre au service du corps mystique de Jésus, qui est à travers moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit unifie tout le corps mystique du Christ. Et c'est mon corps qui est le temple du Saint-Esprit. Genre, c'est le lieu où le Saint-Esprit unifie tout le corps mystique du Christ. Et à ce moment-là, tous les anges sont pour moi. Toute la cohorte angélique peut se servir de mon humanité pour se se placer au centre de cette création, de cet univers. Et c'est le début de la désagrégation du mal. Et c'est là où c'est la manière concrète que l'Immaculé a choisi pour écraser la tête du dragon. Alors, il faut s'habituer à ces anges-là un petit peu. Un petit peu aussi, pareil, ça, s'habituer à ces anges. Alors, bon. Bon, il y a eu le Seigneur, Jésus, a fait une petite communication, n'est-ce pas, en disant, ben voilà, les temps qui approchent sont terriblement difficiles pour rester dans la grâce et réaliser donc le passage pour l'Église, ce passage que l'Église doit réaliser pour engendrer la Jérusalem du ciel et de la terre. C'est votre génération qui doit le faire, mais le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre, tout ça, vont essayer évidemment de mettre beaucoup d'entraves ici et là. Et donc il a proposé, et il a dit, je vous engage à tout vivre en union avec toutes les hiérarchies angéliques. Alors, et je vous signale ça parce que c'est Louis qui me demande de vous en parler. Alors, il a proposé donc une neuvaine. Alors, je vais vous dire ce que c'est que cette neuvaine. La neuvaine de communion. Bon. Alors, il a dit, et je vous le dis parce que je crois que c'est bien, il dit, voilà ce qu'ils veulent. Vous faites à tous ceux qui feront une neuvaine de communion, c'est-à-dire 9 jours de suite, ils communient, pour la messe, ils communient. Et chaque communion, eh bien, à chaque communion, ils offrent leur communion. Vous savez comment on fait pour offrir sa communion? Et une fois qu'ils ont communié, ils offrent leur communion pour que Jésus soit le roi de toutes les nations, de tous les peuples. Qu'il soit le roi des Chinois, le roi des Lituaniens, le roi des Hollandais, le roi des Suisses, le roi des Français, le roi du Burundi, le roi de toutes les nations. Alors, j'offre ma communion en l'honneur de Jésus, roi des nations. Et si je fais ça, par exemple, suppose que vous fassiez ça pour d'abord pour vous, je crois que c'est bien, mais aussi pour ceux dont vous pensez qu'ils auront un rôle important à jouer, qui peuvent avoir un rôle important. Alors, à la première communion, vous recevez, en plus de votre ange gardien, un ange supplémentaire pour l'introduction dans le monde nouveau et pour les épousailles de votre âme. Un ange, un archange, un ange de la hiérarchie des archanges. Le deuxième jour, la deuxième communion. Le Seigneur détachera donc du ciel un troisième ange de la hiérarchie des principautés pour que vous puissiez participer à l'autorité sur les peuples. Le quatrième jour, vous recevrez donc un ange de la hiérarchie des puissances. C'est-à-dire ça, ça a l'air idiot. Non, c'est pas idiot du tout. Hein. La hiérarchie des puissances, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Puissance, ces anges-là sont ce sont des présences de Dieu, si vous voulez. Les anges, c'est ça. Ce sont des présences de Dieu, mais créées. Un ange, c'est ça. C'est une présence créée de Dieu, si vous voulez. Puisque ce sont des porteurs d'un attribut divin. Et c'est très, très, très extraordinaire, hein, un ange. Hein. Bon, ceux qui savent, qui connaissent leur ange, ils savent qu'il fait des prodiges. Hein. Donc l'ange des puissances, c'est vraiment quelqu'un donc qui va vous mettre à l'abri des traits enflammés des puissances de l'air, des puissances déchues. Les vertus, pour le cinquième jour, ça serait que vous aurez un ange des vertus en plus. Le sixième jour, vous aurez un ange donc, des dominations, c'est-à-dire vous serez vraiment à la frontière entre le temps et l'éternité, et l'éternité et le temps. Prêtre, c'est un ange de la prêtrise, de la médiation entre la gloire et la grâce. Le passage de la gloire à la grâce, de la grâce à la gloire. L'ange ensuite, c'est le septième, j'étais au septième. Ben, vous aurez un ange des trônes, À l'ange du trône, faites attention. Si vous avez des dilatations corporelles, c'est pas grave. Ne vous en affolez pas. C'est normal. Et ensuite, vous recevrez un ange pour Pascal, je demande de tomber. Le huitième hiérarchie, c'est les chérubins, vous le savez. C'est-à-dire que un ange qui vous aidera à voir ce que la Vierge a vu quand le Dieu engendre éternellement un Verbe, et s'est associée à cet engendrement pour l'engendrer elle-même dans la chair. Donc ce chérubin vous porte dans la première procession de la Très Sainte Trinité, où procède la deuxième personne à partir de la contemplation toute pure, immaculée et incréée de la première. Et les séraphins, c'est vous introduit dans l'unité contemplative du Verbe dans son principe, et de cette unité émane la glorieuse spiration de l'Esprit Saint. Elle vous introduit dans cette émanation de l'Esprit Saint. Ça, c'est cette flamme. Et vous donc, vous recevrez 9 jours de suite. Non, mais vous connaissez par cœur, Geneviève. Vous recevrez par cœur. Oui.
On a
bon.
Le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, mais les trois.
Alors, laquelle vous voulez, oui.
Les trois premiers.
Ah, mais les anges, les archanges et les principautés.
Ah, d'accord.
Ouais. Oui. Et là. Bon, et vous aurez comme ça, moi je suis.
Le neuvième.
De quoi, Séraphin, le neuvième. Oui, mais vous savez, moi je suis. Oui, c'est 9 communions consécutives, mais c'est 9. Il me semble que c'est à lire la promesse faite par le Seigneur. C'est vrai que. Moi personnellement, faites comme vous voulez, mais j'interprète 9 communions consécutives. Quant au quotidien. Vous pouvez interpréter comme vous voulez, hein, mais moi il me semble 9 jours consécutifs. Bon, ensuite. Voilà, donc vous communiez en l'honneur de Jésus, roi des nations, et puis c'est tout. Bon, 9 comme. Oui, dis. Pardon? Non, non, c'est pas une parole, non, 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 arrête, c'est pas des paroles, c'est pas des méthodes, c'est pas des paroles, c'est pas de la magie. Tu t'offres, tu communies, Jésus est là, il t'est entièrement pris par Jésus. Tu t'offres entièrement à Jésus, et du coup tu offres Jésus et toi-même au Père, tu offres cette communion pour que Jésus soit roi des nations. Tu offres cette communion à l'honneur de Jésus, roi des nations. C'est quand même tout simple.
Oui, mais sur le noyau, il y a marqué deux paroles.
Non, 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 il n'y a pas de parole à dire. D'accord. Bonjour, mon petit frère. Voilà. Voilà. Et si vous. Moi, faites-le, vous le prenez comme vous l'entendez. Hein. Ça, c'est pas la foi. Prenez comme vous l'entendez. Ça, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on appelle de la dévotion. Hein?
Le cas que j'avais posé, c'était pour obtenir la conversion d'une personne.
Ah, bah, pour obtenir la confession d'une personne. Quoi? Ah, non, 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 pour. Non, 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 c'est. Non, 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 non. Écoutez, si je lis le texte, c'est pour obtenir donc une présence donc de toute l'ordre angélique, et c'est tout, hein. Oui. Ah, ben tu peux demander une grâce. Tu peux demander. À chaque fois que tu pries, tu peux demander une grâce. À chaque fois que tu. Mais là en particulier, tu peux demander une grâce. Oui, oui. Oui, oui. Mais toujours. Mais c'est une manière de. C'est une. Les dévotions, c'est ça. Les dévotions, c'est des. C'est comme on n'arrive pas à faire des actes de charité surnaturels purs. Alors, on vous donne, on vous propose des dévotions quelquefois pour vous aider à faire apprendre, à prendre votre envol. Mais le but, c'est d'être brûlé dans l'unité transformante, d'être entièrement brûlé, uni à Jésus dans une seule sphère glorieuse. Et à ce moment-là, bon, bah, vous dites, eh, ce serait pas mal si le mec, là, il pouvait avoir une petite fesse. Hein. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout simple. Mais le but, c'est par la charité. C'est par la charité, c'est par l'acte de charité. Donc l'union totale, corps, âme, esprit, avec le feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection, dans son unité frontale, avec Marie, remplie de gloire, reine, et qui manifeste cette royauté dans la grâce qui nous est donnée. À ce moment-là, oui, tu demandes une grâce. D'accord ? Mais si tu comprends, c'est ça le drame de cette dévotion. Le drame de cette dévotion, c'est qu'il y a des gens qui font plein de dévotions comme ça, même le chapelet. Hein. Et puis, mais c'est massique, tu comprends. Et du coup, il ne se passe rien du tout. Au contraire, ça les détruit, ça les casse en deux, ça les psychologise, ça les métapsychise, hein, ça leur ouvre les chakras même. Par exemple, la IV, c'est ça, invitation à la vie intense. Bon, cette espèce de communauté là, qui est un petit peu partout, ils sont quand même vachement nombreux. Hein. Et là, ils disent des chapelets tout le temps, je vous salue Marie. Ben, je peux vous dire qu'ils sont, j'en ai vu plusieurs, hein. Tous leurs chakras sont déboutonnés. Tous les centres corporels. Et ils partent en astral, ils partent en machin. C'est mieux que la rose croix, hein, ça je peux vous dire. Ça, c'est pas la peine de perdre votre temps avec 4 ans d'initiation à la morgue. Hein. Vous allez directement à Lévis, hein. Ça vous déboutonne les chakras, puis c'est tout. C'est formidable. Ça veut dire, ça montre bien que c'est pas le chapelet qui, matériellement, c'est pas le fait de dire les mots, et puis de dire bon, et puis même, et ils le font avec intensité, hein. Je vous salue Marie pleine de grâce. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. De toute intensité. Et non! C'est la foi, la charité! Parce que si tu vois pas que t'existes, que t'es suspendu à créateur de Dieu, tu te livres pas entièrement. Et c'est lui qui fait tout avec Jésus et Marie, c'est tout. Et puis là, je vous salue Marie pleine de grâce, tu vis du mystère de la très sainte Trinité. Pas de dégueuler les formules, même si c'est un chapelet. Sinon, je rentre, si vous voulez, dans une mystique christique, hein, templière. Or, le Père Dose nous l'a dit, il faut quitter le temple. Comprenez qui pourra, n'est-ce pas ? Quitter le temple. Et on rentre dans le vrai temple. Et le temple, pour le Père Dose, c'est Saint-Joseph. C'est Saint-Joseph, le temple. Parce que Saint-Joseph, donc, il est corporellement dans la gloire. Et il est comme l'origine de son épouse, l'Immaculée. De même que le Verbe est originé dans le Père. Il est en même temps l'origine du Christ, comme le dit l'évangile de Saint Matthieu et de Saint Luc dans la généalogie. Sous le rapport de l'eschatologie, il est origine. Saint Joseph, c'est ce que dit Saint Vincent de Paul, Saint François de Sales, le Père Ollier. Père Dose, Père Ultima Verbi aussi. Il est origine, c'est incroyable, Saint-Joseph, il est origine, enveloppante, et en même temps, et en lui, comme dans le Père, se réalise l'unité, c'est extraordinaire, ça je trouve. C'est extraordinaire, c'est vrai. Le Verbe de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité. Et l'Esprit Saint, troisième personne de la très sainte Trinité, qui sont dans une unité, une communion des personnes dans l'amour, et le don mutuel, pour réaliser une nouvelle réalité. Cette rencontre-là, pour la première fois, elle s'est réalisée dans la blessure du cœur de Jésus. Hein, c'est la fameuse doctrine du Père Maximilien Marie Kolb, dans la passivité substantielle d'amour incréé, se rencontrent le Verbe et l'Esprit Saint pour la première fois, dans la blessure du cœur de Jésus.
Et voyez ce que le Père Dosne disait, que cette blessure du cœur de Jésus était liée à la présence dans les parties les plus basses de la création, les enfers, où se trouvait Saint Joseph. Et c'est ce qui a valu à Saint Joseph la résurrection de sa chair, puisque dans sa chair, il vient l'enveloppant et le lieu où se rencontrent le Verbe et l'Esprit Saint, dans la blessure du cœur. Mais le Verbe est lié au Christ, et l'Esprit Saint lié à l'Immaculée Conception dans sa gloire. Et lorsque les deux se rencontrent dans l'unité spontanée corporelle, c'est Joseph qui en est l'enveloppant, la présence, le nid, le repos. Et ça fait un seul amour. Voilà le miracle des trois éléments. Joseph, Marie, Jésus, dans une seule chair glorieuse. Et où se dilate de la manière la plus continuelle qui soit toute l'inspiration de gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, corporellement. C'est là, dans cette sainte famille-là, que s'engendre notre corps spirituel. Je crois que c'est facile à comprendre. Alors, c'est tout le problème, tu comprends. Bien sûr, il faut se servir des mots. Jésus, Marie, Joseph. Mais il faut se servir surtout de ce que ces mots contiennent. Surnaturellement, glorieusement. Et ils contiennent cette assomption de toute notre vie dans la gloire de Dieu et dans l'éternité glorieuse. C'est pour ça qu'on se consacre à la très sainte Trinité par les mains de Marie.